Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La radio dispose également d'un webchat. Utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 5 novembre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org et vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Et si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio, donc sur causecommune.fm. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors nous allons passer maintenant au programme de l'émission du jour. Nous commencerons par la chronique La Pituite de Luc, qui portera sur Google, la presse et les droits voisins. D'ici une dizaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur les femmes et les métiers et communautés de l'informatique et du logiciel libre. En fin d'émission, nous aurons une présentation du pacte pour la transition. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, ma collègue Isabelle Avani. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Alors, comme je fais avec chaque début d'émission, on va vous proposer un petit quiz. Je vous donnerai les réponses au cours d'émission et vous pouvez proposer des réponses soit sur le salon web de la radio, soit via, par exemple, les réseaux sociaux. Donc, première question. L'émission du 29 octobre 2019 était la 42e émission de Libre à vous. 42 est un nombre fétiche dans la culture geek, la culture informatique, la culture de l'imaginaire. Et nous avons donc fait quelques clins d'œil et références à une œuvre. Quelle était cette œuvre ? Deuxième question. Aujourd'hui, notre sujet principal portera sur les femmes et les métiers et communautés de l'informatique et du logiciel libre. Sauriez-vous dire qui est la première personne à avoir réalisé un programme informatique ? Un petit indice, c'est une femme. Tout de suite, place au premier sujet. Alors, nous allons commencer l'émission avec la chronique La Pituite de Luc, qui va porter sur Google, la presse et les droits voisins. Alors Luc n'est pas avec nous aujourd'hui et la chronique est enregistrée, donc on se retrouve juste après.
Salut Fred, je pensais vraiment venir cette fois, mais là je suis au rayon plomberie d'un magasin de bricolage. Je ne donne pas son nom parce qu'il refuse de me payer pour ça, les rats. Parce que tu vois, le libre, c'est un peu comme un évier bouché finalement. La plomberie, c'est mieux, c'est l'avenir, c'est la France qui se lave tôt. Je sais que tu dis que tu ne vois pas le rapport, mais c'est à cause des tuyaux. Je m'explique. Je garde un œil distrait sur la dernière série Netflix. Ça s'appelle « Droits voisins » et ça raconte l'agitation de la presse autour des gros gains de Google. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le début de la série, notre presse nationale a fait passer une loi pour faire cracher leur thune aux GAFAM. Surtout à Google. Le principe est simple. Puisque Google News fait de l'argent en relayant les articles de la presse, alors la presse doit toucher sa part. On en était resté à la fin de la saison précédente sur le vote de cette loi. Pas mal de gens avaient dit que le scénario était cousu de fil blanc, ça n'avait pas marché en Espagne ou en Allemagne avant. Ça n'allait pas marcher chez nous maintenant. Et ben en fait, ils avaient raison, Google a juste modifié la présentation des articles pour tomber dans la catégorie qu'il dispense de partager son pécule. Ça n'empêche pas toute la presse et notre ministre du divertissement de s'insurger. Ces gens ont le sens du spectacle, mais pas celui de la mesure. Ils jouent tour à tour la déception, les mensonges, les larmes et la rage. En gros, un drame exubérant et lourdingue. Pendant ce temps, Google joue tout en retenue, une simple déclaration, une pièce poussée du bout du doigt, échec. Même s'il est censé être le méchant de l'histoire, j'aurais plutôt tendance à admirer le mouvement Google plutôt que celui d'une poignée de patrons de presse qui se roulent par terre pour tenter de rendre leurs caprices crédibles. Mais Google n'a aucun mérite, l'intrigue reste médiocre. Aucun mérite parce que c'est facile quand on possède le tuyau. Google a la main sur le robinet et les yeux fixés sur le compteur. Ça n'a rien d'admirable. Tuyau, robinet, compteur est la sainte trinité du business. Dans l'eau potable, les déchets, autoroutes, téléphonie mobile, partout des tuyaux, des robinets et des compteurs. Être dans le tuyau du grand méchant, c'est lui appartenir. Amazon possède ainsi l'essentiel des librairies physiques des US, vend des liseuses et rémunère les auteurs édités chez lui à la page lue. Au Venezuela, les utilisateurs de Photoshop l'ont également découvert récemment, quand Adobe a fermé le robinet, dans le cadre de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Mais s'enfiler dans le tuyau, ce n'est pas qu'une question de pognon. Dans le tuyau, on adopte nécessairement la forme d'un cylindre. Il est donc aussi un outil de contrôle social, de prescription culturelle et des idées. Un tuyau, c'est un sceptre, c'est le pouvoir. Les articles sont le fluide qui circule dans le tuyau. Ironiquement, la presse a travaillé dur pour se faire littéralement entuber. Souvenons-nous, elle s'était déjà pliée en quatre pour rentrer dans l'iPad, alléchée par les promesses de gros bénéfs pour finalement se faire tondre par Apple. Ceci est une répétition, aurait pu dire le chauve à col roulé qui en fut le patron. Et on voudrait nous faire croire à l'indignation de la presse en dépit de sa longue expérience. Le tuyau signe la mort de tout suspense, faute d'un rapport de force équilibré. Il faudrait, pour relancer l'intérêt de la série, que ces petites particules atomisées prennent conscience de leur déclassement. On aurait un drame social poignant, où ceux qui furent eux-mêmes tuyaux, et qui croyaient avoir réussi, seraient confrontés au silence déraisonnable des GAFAM et réaliseraient qu'ils ne sont en fait plus rien. Ils pourraient alors adopter des stratégies adaptées, comme faire de la lèche pour tenter de monter en grade, ou bien défiler avec des banderoles dans les fumées de merguez à Mountain View. Ça aurait de la gueule. À la place, ils essaient de nous fourguer un téléfilm français d'action mettant en scène un duo de toxicos tirant sur leurs tuyaux crevés, la presse cyclotimique, affublée de son fidèle pitbull gouvernemental édenté qui aboie sans conviction. Perso, j'y crois pas une seconde. Donc, en attendant un hypothétique réveil des scénaristes, moi je me mets à la plomberie, qui sait, je serai peut-être maître du monde le mois prochain.
Nous allons écouter Optimism par Minda Lacey, on se retrouve juste après. Passez une agréable journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune
93.1. You're frowning at the shadows in the air, but I want to sit in the darkness that is there. So close your eyes.
D'écouter Optimism par Minda Lacey, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal. Donc, nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les femmes et l'informatique et aussi le logiciel libre avec nos invités. Donc, Catherine Dufour, ingénieure en informatique, autrice de Ada ou la beauté des nombres chez Fayard qui vient d'apparaître en septembre 2019. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Katia Aresti, ingénieure logicielle chez Red Hat, membre de Duchesse France. Bonjour Katia.
Bonjour.
Et normalement au téléphone avec nous, Caroline Corbal de Code for France et membre d'Open Heroine France. Bonjour Caroline.
Bonjour, je suis là.
Super. Bienvenue à vous trois. Et bah, une petite première question, même si je vous ai présenté très rapidement, une petite présentation personnelle. On va commencer par Caroline qui est au téléphone, c'est la situation la moins facile. Donc Caroline.
Oui, bonjour. Alors, bon, tu l'as présenté, je suis membre du collectif Open Héroïne, que je pense on pourra représenter tout à l'heure. Et sinon, je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle Code for France et je gravite dans le milieu du libre depuis 4-5 ans.
D'accord. Katia Resti ?
Oui, moi je suis du coup ingénieure en informatique chez Red Hat et je suis membre de Duchesse France, comme présentera tout à l'heure aussi, depuis 2010. Et voilà, je fais de l'open source en Java, particulièrement.
Alors, je précise qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir Katia Resti dans notre émission sur le métier du développement logiciel libre. Ouais. Donc, le podcast est disponible. Et on a aussi eu déjà Caroline Corbal. Alors, je ne sais plus en quel moment c'était, mais pareil, le podcast est disponible sur le site de Cause Commune et de l'April. Catherine Dufour.
Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Catherine Dufour. Moi, je suis aussi ingénieure en informatique. Je fais des bibliothèques numériques. Et puis, je fais des chroniques au mon diplôme et je donne des cours à Sciences Po et je suis auteur de science-fiction.
D'accord. Alors, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on ne va pas aborder tous les thèmes du sujet parce qu'il est très très vaste. Hein. C'est une première émission sur le sujet. Mais déjà, première question, un petit peu le constat. Pourquoi on parle de ce sujet-là, donc, la place des femmes dans l'informatique et du logiciel libre, alors qu'en fait, initialement, ce n'était pas la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, qui veut peut-être commencer sur peut-être l'histoire, un peu rappeler les premières. Alors je vous précise que à la radio, ils se font des signes pour se passer la parole. On va commencer sans doute, oui, par Catherine Dufour. Donc, notamment, est-ce que les femmes ont toujours été absentes ou moins présentes que les hommes dans l'informatique? Comment ça se passait il y a quelques années?
Non, elles ont toujours été très présentes. Avant, elles étaient très présentes. Donc, l'informatique, ça a commencé quoi? La Seconde Guerre mondiale, on va dire, en gros, même si c'est vrai qu'IBM a été créé, genre, en 1890, par Ulrich. Mais, globalement, la partie noble de l'informatique, c'était le hard, c'est-à-dire la machine. Et puis le soft, la programmation, c'était la partie moins noble. Donc on employait des femmes. Une des premières, alors là, celle qui a inventé le premier programme informatique, c'est Ada Lovelace, mais c'était en 1843, c'est un peu lointain. La première codeuse d'un des premiers gros ordinateurs, le Mark One, c'était Grace Hopper. C'est donc une ingénieure américaine. Et puis après, il y avait un autre gros ordinateur à la même époque. Là, je vous parle, c'est Seconde Guerre mondiale ou juste après. C'était l'ENIAC qui a été programmé par six mathématiciennes. Et donc, la programmation est longtemps restée une prérogative féminine. Et puis, dans les années 70, il y a un très bon article de Chantal Morlet, à mon avis, vous le trouverez sur Slate, sur le sujet. Dans les années 70, l'informatique est devenue de plus en plus prégnante. L'informatique s'est répandue partout. Et donc, les salaires ont commencé à monter. Donc, il y a eu une réaction, hein, en Angleterre, où c'était quand même l'État qui était le plus gros employeur d'informaticiens et d'informaticiennes. Ils se sont vraiment dit, oh, mais on va pas donner des payes pareilles à des femmes. Et ils ont arrêté d'embaucher des programmeuses. Donc, je crois qu'à l'époque, il y avait quoi, 50% de femmes dans l'informatique. Dans les années 80, je sais plus les chiffres exacts, c'est passé à 40 ou 30. Et maintenant, alors là, selon les paroisses, on dit que les femmes sont 12% ou 20% du secteur. Mais il y a eu une volonté ferme de renvoyer les dames à la maison et de pas leur servir les gros salaires des informaticiens.
Donc en fait, concrètement, c'est quand l'argent a commencé à arriver et le prestige, on a dit « Mesdames, dehors, laissez la place aux hommes ».
C'est
toujours comme ça. Est-ce que Caroline ou Katia, vous voulez compléter sur cette partie constat ou historique, ou même le constat actuel, hein? Katia,
Katia Resti. Oui, pour l'historique, je pense que c'est très très bien résumé. Merci. Pour le constat actuel, oui, je... aujourd'hui, on n'est pas plus en avance dans notre carrière travailler en tant que développeuse, et plus on veut rester technique et avancer, du coup, tu avances ta carrière, plus on voit qu'il y a plus de femmes qui quittent et qui vont être poussées plutôt à faire du management, du product owner, du fonctionnel. Très, très tôt dans notre carrière, ils nous poussent plutôt à aller vers ça, plus que les hommes, je dirais. C'est comme si on voyait que, comme les hommes, de toute manière, sont plus geeks ou ils vont peut-être s'épanouir plus pour devenir techniquement très forts avec les années, et que nous, on a quand même derrière ce cliché un peu de qu'on va mieux faire une gestion, qu'on va être plus social, etc. Et donc, on va nous pousser vers d'autres trucs, mais très tôt dans notre carrière. Et donc, quand tu as 14 ans d'expérience comme moi, on voit qu'il y a moins de femmes, et dans l'open source, encore moins.
Alors, on reviendra tout à l'heure sur la spécificité, effectivement, peut-être du libre. Caroline Corbal, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Oui, que je partage tout à fait ce qui vient d'être dit et que je pense qu'en effet, ça fait un moment qu'on parle de la place des femmes dans le numérique et que concrètement, la situation évolue beaucoup trop lentement, qu'on voit qu'il n'y a pas assez de femmes encore qui contribuent à des projets libres. Il y a encore trop d'événements avec une majorité d'intervenants masculins, voire 100% masculins. Et ça, j'en ai encore vu récemment et je pense que c'est juste plus possible. Il y a encore trop peu de femmes dans les comités de direction des entreprises et puis encore au quotidien, trop de situations de sexisme ordinaire qu'on doit subir. Et qu'en échangeant entre femmes, on se rend vraiment compte que beaucoup ne se sentent pas légitimes à prendre la parole, que ce soit en public ou même parfois dans des environnements fermés, ce qui me semble très problématique.
D'accord. Avant de repasser la parole à Catherine Dufour, j'ai une petite question collective. Catherine, dans son introduction, a parlé des années 40-50 jusqu'aux années 70, on va dire. Mais dans les années 80, il y a eu un moment important, c'est l'arrivée des ordinateurs personnels. Est-ce que ça a aggravé la situation, l'arrivée des ordinateurs personnels, dans le sens où peut-être ils ont plus été donnés à des garçons qu'à des filles, ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas joué de rôle? C'est une question ouverte. Hein. Et donc, je redonne la parole à Catherine Dufour.
J'aurais pas de réponse. Je dirais que très probablement, de toute façon, on a plus tendance à offrir des petits ordinateurs aux garçons et puis des petites machines à repasser aux filles. Mais c'est juste du feeling. J'ai pas de données chiffrées là-dessus. Oui, c'était pour reprendre ce que va dire Katia est très important. C'est que il s'agit pas uniquement de plafond de verre. C'est un plafond de verre, vous montez en même temps que les hommes, puis à un moment, plouf, vous arrêtez et il continue. C'est ce qu'on appelle le couloir de verre. Alors là, je voulais vous raconter une petite anecdote. C'est que une fois, je suis intervenue dans une grosse société où il y avait un espèce de raout féminisme et diversité. C'est-à-dire qu'en gros, on met dans une salle les femmes, les noirs et les handicapés et on fait une grande conférence pour parler de ces soucis-là et à quel point la société essaye justement de détruire les inégalités. Et l'introduction a été faite par monsieur le PDG et puis il y a eu une petite allocution de monsieur le directeur financier. Et puis après, ils nous ont dit, c'est pas tout ça, mais nous, on a conseil d'administration, on va vous laisser discuter entre vous. Donc ces messieurs sont allés exercer leurs fonctions régaliennes en nous laissant entre femmes, c'est-à-dire la responsable de la communication, la responsable des ressources humaines, c'est-à-dire toutes les fonctions, effectivement, comme disait Katia, un peu molles, un petit peu dans le sociable, mais qui sont pas le nerf de la guerre, qui sont pas les vrais décisionnaires. Et c'est à ce moment-là, à la pause, en discutant avec les petites jeunes filles et les moins jeunes qui travaillaient dans cette société, que j'ai compris que c'est pas tellement qu'on les empêchait de monter. C'est que dès le départ, on les met dans un couloir de verre qui les emmènera de toute façon vers les fonctions molles où on est facilement remplaçable et où on prend pas les décisions importantes. Et les hommes gardent en attribution, je dirais, le cœur du métier et le nerf de la guerre. Voilà, donc on raisonne plus maintenant forcément en fonction de plafond de verre, mais en fonction de couloir de verre. Et c'est très bien fléché depuis le début de la carrière. Et donc je félicite Katia pour avoir résisté à la pression de prendre ce couloir.
Et alors, avant de redonner la parole à Katia, et j'insiste d'ailleurs sur le métier de développeuse, et d'écouter le podcast de son émission avec Katia, et c'était avec Emmanuel Ravière aussi, où ils ont expliqué qu'on pouvait être développeur et développeuse de logiciels, et en l'occurrence de logiciels libres, pendant des années et des années, que devenir chef de projet ou faire du marketing, c'était pas la voie absolue. Hein, donc je vous encourage vraiment à l'écouter. Je voulais juste savoir, est-ce que par rapport à ma question sur les ordinateurs personnels des années 80, est-ce que Katia ou Caroline, vous avez un commentaire là-dessus, ou pareil, vous n'avez pas de réponse
Katia. Moi, je pense que effectivement, j'ai pas vécu ça parce que justement, mon père, en fait, je pense que mon père, il m'a quand même un peu mis dans la tête que je devais être une ingénieure parce que il voulait. Et depuis que j'étais genre toute petite, j'avais 3-4 ans, qu'on me demandait qu'est-ce qu'on voulait être quand on sera grande. Moi, je disais, je voulais être ingénieure parce que lui disait, tu vas être ingénieure, machin. Mais donc après j'ai fait ça parce que j'ai appris à coder plus tard et j'aimais coder. Et donc c'est pour ça que j'ai pris cette voie, parce que mon père m'a dit de faire ceci ou cela, c'est vraiment moi qui ai choisi. Mais ce qui a été intéressant dans mon cas est que lui m'a poussé à beaucoup de choses. C'est lui qui a amené les Lego à la maison, il a acheté des jouets typiquement plus orientés pour des garçons. Marketisé pour les garçons, donc pas rose, mais j'avais aussi des poupées, énormément de poupées. Je faisais la peinture, je faisais la danse, etc. Disons que j'étais exposée à tout. Et, Et donc ça, j'ai pas vécu. Mais je pense que mon père m'aurait offert. Moi, j'ai eu un ordinateur après et tout. Donc oui, je crois que ça peut avoir une grosse influence. Ou de quoi on te pousse à la maison et que tous les stéréotypes de la des jouets, etc. Ça joue forcément. C'est en quoi on joue quand on est petit, qu'on grandit avec ça quand même. C'est du coup, je pense qu'il y a, il doit forcément eu avoir une influence, de mon avis. Mais c'est empirique, en même temps, je n'ai pas des dates. Hein, donc...
Alors, on reviendra sur ce sujet, désolé, justement, dans le cours de l'émission, sur le rôle de l'éducation, des parents, de l'école, etc. Et juste après, on va aborder un peu le sujet aussi de ce qui aggrave la situation aujourd'hui, de ce qui peut l'améliorer. On va parler aussi d'aujourd'hui. Est-ce que, Caroline, toi, sur la partie expérience des années 80, alors même si de mémoire, tu es un peu plus jeune peut-être que nous, est-ce que tu as une expérience ou des commentaires à faire ?
Je rejoins Katia. Moi, j'ai eu la chance parce que mes parents m'ont tout de suite mis un ordinateur dans les mains. Donc, c'était dans les années 90. Et donc j'ai pu essayer ça dès le début, et c'est là où je pense que l'école va avoir un rôle fondamental aussi pour gommer les discriminations qu'on peut avoir dans certains foyers. J'espère de toute façon qu'à terme aussi dans les foyers, on aura de moins en moins ces discriminations.
D'accord.
Sur, ouais.
Ok. Alors là, on va parler un petit peu de ce qui, même si tu, Caroline a commencé, sur ce qui aggrave la situation, sur ce qui peut améliorer la situation, aussi les propositions concrètes. On parlera aussi peut-être des spécificités peut-être du logiciel libre ou s'il y en a par rapport à l'informatique en général, hein, parce qu'il peut y en avoir. Mais Catherine Dufaux, vous vouliez intervenir ?
Oui, je voulais juste dire que la notion de père est très importante. Moi, j'ai écrit un livre...
Père, P-A-I-R ?
P-E-R-E,
P-E-R-E,
avec un accent.
Okay.
J'ai écrit un livre, le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse, où je donne des modèles, c'est-à-dire des bios de femmes, informaticiennes, mathématiciennes, chercheuses d'or, agentes secrètes, surfeuses, bref, tout un tas de métiers rigolos et que les femmes ne font pas traditionnellement. Et donc, je me suis intéressée aux bios de ces femmes-là, celles qui font de la voile, celles qui font du combat rapproché, enfin bref, des choses de vues comme masculines. C'est systématiquement le père qui autorise. Hein. Je ne sais pas, Émilie du Châtelet, qui est une grosse génie mathématique du 18e, c'est son père qui lui a donné l'autorisation de faire. Et je retrouve très souvent le père comme moteur du fait qu'une femme s'affranchisse des limites imposées à son genre. Donc messieurs, si vous vous sentez féministe, le meilleur service que vous pouvez rendre aux femmes, c'est d'autoriser votre fille à sortir justement de ses limites, et de l'autoriser et de lui donner les moyens. Ça, c'est véritablement, ça se retrouve systématiquement.
D'accord, excellente intervention, et on reviendra sur la partie éducation plus en détail encore après. Caroline, tout à l'heure, tu avais commencé à citer quelques points qui aggravent la situation, parce qu'on a bien compris l'historique, mais aujourd'hui, il y a des choses qui aggravent. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon rapide, et puis peut-être les choses qui peuvent permettre de corriger justement ces points négatifs et les propositions concrètes. Et là, on parlera un peu plus de vos structures et de vos actions. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui aggrave la situation, qui déjà n'est pas très, très, très belle ?
Alors, déjà, je dirais que ça dépend du point de vue où on se place. Si on se place au niveau des organisations, par exemple des entreprises et des associations, qui sont deux milieux que j'ai pu pas mal expérimenter, ce que j'observais, c'est que le manque de dialogue est vraiment un souci entre équipes. On a vraiment besoin de se parler, de dire quelles sont nos attentes sur ces sujets-là, au risque d'entretenir des situations qui sont non satisfaisantes. Ensuite, je pense qu'un des soucis, c'est le manque de prise de risque. Par exemple, prise de risque lors d'événements à inviter des intervenantes qui sont moins expérimentées, en se disant qu'on veut tel ou tel nom masculin parce que c'est une valeur sûre. En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à faire confiance à des femmes plus jeunes. Et si on ne le fait pas, c'est un cercle vicieux et ces femmes-là pourront jamais se former. Ensuite, je pense que la manière dont les enjeux de diversité et d'inclusion sont traités parfois aggrave le problème, parce que soit c'est traité comme des enjeux de communication sans action concrète derrière, ce qui peut les desservir, soit parfois c'est l'inverse, on n'en parle pas parce qu'on a peur de mal faire, de mal en parler, de pas utiliser les bons termes, par exemple de faire peur à ses clients, au public, et ça je pense que c'est vraiment regrettable. Et dernier mot là-dessus, au niveau global aussi, je pense que l'absence de rôle modèle joue un rôle clé, parce que nos cultures numériques sont vraiment peuplées d'icônes masculines, que ces hommes-là nous inspirent ou non. Hein. On peut tous citer leur nom, alors que c'est pas le cas avec la plupart des femmes qui aujourd'hui excellent dans le milieu informatique. Et voilà, je pense que ça aggrave clairement le problème, parce que les jeunes filles ne peuvent pas s'identifier dans des rôles modèles féminins.
Très bien, en plus ça me fait rebondir sur le livre de Catherine Dufour, donc guide du métier pour les petites filles, où justement vous avez...
C'est des rôles modèles,
des rôles modèles anciennement, oui. Enfin, anciennes et actuelles.
Voilà.
Donc pour que effectivement, et ça c'est important, et on reviendra tout à l'heure aussi dans le rôle important joué justement sur ce rôle modèle, et notamment avec Duchesse France, pour la mise en valeur des rôles modèles. Vous voulez compléter, Katia ou Catherine, sur cette partie vraiment aggravation de la situation, ou est-ce qu'on passe directement aux choses plutôt positives, c'est-à-dire que comment améliorer les choses?
Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit effectivement Caroline. Alors, en plus, moins il y a d'intervenantes, moins il y a d'intervenantes. C'est-à-dire que quand on veut convier, avoir un minimum de parité, qu'on convie une femme, elle a déjà 80 invitations parce qu'elle est un peu toute seule. Moi, c'est un problème que je rencontre fréquemment. Alors, il y a quand même des solutions. Il y a un site qui s'appelle experte.com qui est très bien, où vous allez trouver des femmes d'absolument toutes les couleurs dans toutes les disciplines. Surtout, n'hésitez pas à aller sur ce site-là. Il est génial pour trouver de la ressource.
Katia, tu
ouais, mais non, rien, non c'est, tout a été dit, je pense.
D'accord.
Elle est très bien expliquée.
Alors, on va parler peut-être des propositions concrètes, ou en tout cas pour résoudre ce problème, et ça va être aussi l'occasion de présenter un peu vos initiatives, et puis d'autres initiatives, sans doute, hein. Il y a pas que les vôtres, évidemment, mais on va peut-être commencer par Duchesse France, donc avec Katia Aresti. Donc, comme tu l'as dit, donc toi, tu es développeuse donc chez Red Hat, une entreprise du logiciel libre, et tu fais partie de Duchesse France. Alors, quel est l'objectif de Duchesse France et quelles sont vos actions, principales actions?
Donc, Duchesse France, c'est une association qui a été créée en début 2010 par quatre femmes qui avaient un constat de... Ils faisaient des soirées techniques à Paris et elles se disaient pourquoi il n'y a pas plus de femmes, elles sont où les autres femmes, etc. Peut-être qu'elles ne seront pas motivées à venir à des soirées, etc. Du coup, elles ont créé ça justement avec l'idée de dire vous n'êtes pas toutes seules. Il y a plus de développeuses et des gens, des femmes techniques, donc rencontrons-nous et et créons comme ça. Donc ça, c'était l'origine du groupe et je me suis inscrite au groupe dès le départ, dès la création du coup en mars 2010 et ensuite j'ai rejoint en tant que membre de organisatrice 2-3 mois après. Donc je suis pas fondatrice mais je suis là depuis les fondations. Et en fait, oui, nos actions sont principalement pour justement mettre en avant des femmes pour que d'autres femmes s'inspirent des différents parcours. Mettre en place, on a toute une communauté dans laquelle, sur Slack aujourd'hui, dans laquelle on peut discuter.
Précise ce que c'est Slack.
Slack, c'est un chat.
Un
logiciel qui sert à créer des canaux de chat
de communication
et que du coup on peut poster sur différents sujets et échanger etc, des trucs techniques comme personnels, n'importe quoi. Puis on organise aussi des soirées techniques à Paris. On essaye que les intervenants de soirées techniques soient des femmes ou un homme à une femme. Parfois, ce n'est pas possible. Du coup, on va pas refuser quelqu'un qui veut venir parler à Duchesse parce que c'est un homme, justement. Mais le but, c'est vraiment de pousser les femmes à parler, à partager sur leurs connaissances techniques. Et donc, on fait des soirées autour de ça. Et voilà, et ça peut être aussi simplement un apéro. On fait plein de choses. Et le seul truc, on n'est pas méga structuré, dans le sens où on n'a pas une soirée tous les mois, je sais pas comment. C'est vraiment au besoin,
au feeling
et aux disponibilités de chacune, parce qu'on est quand même, on fait tout ça en bénévolat. Et du coup, ouais, ça prend un temps fou quand même. Et on a une vie, la plupart, on a une vie de travail, plus famille, plus mille trucs. Mais la communauté est quand même assez grande. Et sur Meetup, qui est un site pour justement rassembler, pour organiser des événements et pouvoir que les gens s'inscrivent, on était pas loin de 2500 inscrits ou 3000. Il y a plein de meet-up, donc de soirées techniques comme ça sur Paris. Et mon constat a été que quand c'est Duchesse qui l'organise, la moitié des assistants sur des soirées très techniques, c'est des femmes souvent. Alors que d'autres soirées techniques organisées par d'autres groupes, peut-être t'as une femme, voire zéro. Genre vraiment, les pourcentages sont beaucoup plus petits. Mais nous, on n'organise pas que pour les femmes, on ferme personne en fait.
D'accord.
Voilà.
Mais on verra sur ta remarque, notamment sur les réunions mixtes ou non mixtes. qui peuvent avoir leur important les réunions non mixtes. Je relaie une question, ou plutôt une suggestion, qui est sur le salon web, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous sur causecommune.fm. Donc il y a Marie-Odile qui suggère, sous forme de question, d'enregistrer les conférences et de les publier, et en plus je pense qu'elle pourrait rajouter qu'elle va les transcrire, parce que Marie-Odile c'est notre personne qui transcrit les conférences. Donc question, est-ce que ces conférences sont enregistrées?
Celle qu'on fait avec Duchesse, oui. Si la salle qui nous héberge, il y a moyen, d'accord. Oui. Mais sinon, non. Et parfois, c'est juste que c'est des ateliers de coding. Mais c'est pour les pros. Ce qu'on fait souvent, c'est pour les pros. C'est pas pour initier des gens au code, mais c'est vraiment pour les pros qu'on est là. Voilà. Donc, c'est des choses assez pas techniquement poussées, en fait.
D'accord. Caroline Corbal, de ton côté, donc Open Heroine, je pense que c'est assez proche, mais tu vas nous expliquer ça. Donc, d'où vient Open Heroine et qu'est-ce que vous faites?
Oui, il y a quelques similitudes avec ce que vient de dire Katia. Open Heroine, en fait, c'est un collectif international qui a été créé il y a 4 ans pour rassembler les voix de femmes qui agissent dans le numérique ouvert. Donc, par numérique ouvert, on entend le logiciel libre, l'open data, l'open gov, les communs numériques, etc. Et donc ça, c'est un réseau international. Toutes ces femmes-là, donc là, pour le coup, c'est fermé aux hommes. C'est uniquement pour les femmes. Elles se retrouvent sur un Slack international. Et avec une amie, Cécile Le Guen, on a décidé, il y a 2 ans, d'ouvrir le chapitre français de ce réseau face au constat, en fait, qu'on rencontrait encore dans nos environnements professionnels, trop de situations de sexisme ordinaire et qu'on avait vraiment besoin de s'en parler entre femmes dans des espaces safe, donc où on se sent en sécurité pour en parler. Et donc voilà, Open Heroine en France, c'est un réseau de confiance dans lequel chacune est bienvenue. C'est complètement informel, il n'y a pas de bullshit, pas de post-it, pas d'ordre du jour, pas de seuil de bullshit, de, comment dire en français, de... on parle de choses sérieuses, quoi.
Voilà.
On parle de choses sérieuses, il n'y a pas de post-it, pas d'heure du jour, pas de feuille de route. On va boire des bières régulièrement. On a une boucle sur l'application Telegram pour échanger, sur laquelle toutes les femmes sont bienvenues. Il y a aussi des femmes qui ne sont pas dans le numérique, d'ailleurs, qui nous rejoignent parce qu'elles sont intéressées par nos discussions. Et de temps en temps, on monte des projets quand le besoin s'en fait ressentir. Là, par exemple, récemment, on a organisé une soirée sur les femmes et la politique pour aider des jeunes femmes à s'engager en politique. Donc là, ça dépasse en plus le sujet du numérique. Et donc, voilà, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter et on rajoutera la boucle de discussion.
D'accord.
Ok, oui.
Donc, invitation lancée. Petite question, justement sur la partie tout à l'heure, les ateliers ou en tout cas les rencontres non mixtes. Est-ce que tu pourrais expliquer l'importance de ces rencontres non mixtes? Parce que c'est un sujet qui a souvent été un sujet de discussion dans les communautés et mal compris. Est-ce que tu peux nous expliquer, ou bien sûr Katia et Catherine, l'importance de ces rencontres entre femmes?
Oui, alors en fait, c'est vraiment là pour le coup, né du constat qu'entre femmes, on ne se parle pas de la même manière que quand il y a des hommes et qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ne viennent pas à des réunions où il y a des hommes, ou alors si elles gênent, elles n'osent pas prendre la parole de la même manière et que vu l'ensemble des problèmes qu'on rencontrait, on avait besoin d'espace où on se sent en sécurité, on se sent bien pour aborder ces problèmes. Alors parfois, on parle de soucis liés justement au sexisme ordinaire, de tous ces sujets-là. Donc là, on est encore mieux pour en parler entre femmes puisque on peut en parler librement. Mais on parle aussi d'autres sujets et je pense que la non-mixité, c'est pas l'unique solution, mais c'est une solution, enfin c'est déjà quelque chose qui est fondamental pour que les femmes puissent s'organiser entre elles et trouver des solutions.
D'accord. Alors, on va revenir sur ce sujet-là, des propositions concrètes, parce que j'ai vu sur vos sites que vous aviez pas mal de propositions, et notamment, on reviendra sur l'organisation des conférences, comment justement, quels conseils on peut donner aux structures qui organisent des conférences. On va faire une pause musicale, on va écouter Edge of Feminine par Killy Mez, et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune, 93.1.
Alright, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gonna do? Come on, ladies, it's time to stand up. Alright, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gonna do? You see, this system has long been a joke. Patriarchy, they're killing innocent folk. Fuck the shell and the white, they saving all the yolk. Inside 360, we rep the second toke. He been on my case, then I can feel him choke. They wasted our trust, and now we must revoke. Will you blindly follow, snorting up that coke? That's conscious on your side, do you feel her vote?
And we don't want to eat caged animals. Sick of the world, they be acting like cannibals. We don't believe in death for power. Fuck the thrill and the watchtower. Do you have the balls? Are you a coward? I can hear the masses and they keep getting louder. Stop up in the pills, crushing up the powder. Believe in yourself, fuck that internal doubter. Alright ladies, it's time to stand up. Come on fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? Come on ladies, it's time to stand up. Alright fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? Na koi majuna banni, kaam karwayenge. Apne kaam hai abhi, isse kuch ban jayenge. Na koi majuna banni, kaam karwayenge. Apne kaam hai abhi, isse kuch ban jayenge. Choices, take over, watch the babies die. Polluted air, gun blast, see the way they cry. You been muted, lick a shot, so I can hear them sigh. Are you waiting on the devil or God for a piece of pie? Me and my ladies, we've been grinding teeth, practicing and preaching, we hoping to impeach. Inhale the silly seed, we suck it in deep. You've been wasting my time, assuming that we creep. But I've been real far from casual. I'm a serious bitch, I'm writing a manual. Fuck the chit chat, small talk, he sound like Hannibal Lecter. Or if the weapons inspector in the U.S., who is the real threat? I know you suspect, and while you reflect, we lethal inject with azole infects. I'm about to defect, until then I'll be writing rhymes and I'll be writing checks. Alright ladies, it's time to stand up. Come on fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? Come on ladies, it's time to stand up. Alright fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? Love our men, but the days of the female service way back when are over, my friend. Human rights we must defend. Breathe in the feminine energy, it's a yang trend. We must spread the positive vibe. One up the aura, no need to hide. Love your neighbor, smile at a stranger, fuck your pride. We in a state of danger, the devil he has crept inside. But when the women gather, the world will heal. It's written in the holy books, come on, strike a deal. That you won't worry about your looks, let's be real. See the beauty inside, you've been duped, break the seal. Holy prophecy, no Saddamus from the sea. It's our duty to return the mother to the tree. Water the root, it's an emergency. Age of Aquarius, bring them water, set them free. Alright ladies, it's time to stand up. Come on fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? Come on ladies, it's time to stand up. Alright fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gon' do? And all my ladies in the US, and all my ladies in the East, we about to take over this beast. And all my ladies in the West, and all my ladies in the East, we about to take over this beast.
Nous venons d'écouter Edge of Feminine par Killy Maze, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion concernant les femmes, l'informatique et le logiciel libre, toujours avec Catherine Dufour, Katia Aresti et Caroline Corbal. Alors juste avant la pause musicale, nous parlions d'Open Heroine et de Duchesse France. Alors je précise que Duchesse est sans E à la fin. Donc on mettra évidemment les sites et on les fera en référence à la fin de l'émission, mais vous les retrouverez sur le site de l'April et de Cause Commune. Et on commençait un petit peu à parler de, des propositions, des pratiques des unes et des autres dans vos structures. Et juste avant la pause, je disais qu'on allait parler un peu de... Enfin, tout à l'heure, Caroline Corbal, dans les problématiques, elle a cité ce qu'on appelle les manels, c'est-à-dire les panels d'intervenants. Elles sont avec que des hommes. Effectivement, il y a beaucoup de conférences où on retrouve principalement des hommes. Donc, quel conseil donnez-vous et je crois même que d'ailleurs, Katia Aresti, tu participes à un comité de programme de mémoire.
Oui.
Alors, justement, donc, on va commencer par Caroline parce qu'elle est au téléphone. Quel conseil vous pourriez donner donc, aux personnes qui organisent des conférences ou des tables rondes ou des événements, soit informatiques, soit libristes, hein, peu importe, pour justement donner la place que les femmes ont mérite d'avoir. Donc, Caroline Corbal.
Alors déjà d'être vigilant sur cette question des manettes, donc déjà avoir un comité de programme qui est paritaire, c'est un bon départ, il me semble, enfin, c'est même une condition minimum. Ensuite, pour la question du référencement, pour aller trouver des profils féminins, la question du référencement qui a été évoquée par Catherine tout à l'heure, il y a la plateforme Les Experts, du coup, qui est disponible et consultable, et une autre plateforme pour l'international qui s'appelle speakerinen.org, où il y a pas mal de profils féminins qui sont référencés. Le souci, c'est qu'il y a pas mal de femmes qui n'osent pas encore se référencer sur ces plateformes.
Speaker quoi ?
Speakerinen.org. On mettra les références sur le site de la radio et sur le site de l'April, parce qu'effectivement, c'est pas évident à prononcer. Merci. Et je précise aussi, et je te redonne la parole, que sur Duchesse France, il y a une liste d'expertes techniques. C'est d'ailleurs là où j'avais trouvé Katia Aresti quand j'ai cherché une développeuse pour l'émission de l'April. Je te laisse poursuivre.
Et donc, oui, je disais qu'il y a pas mal de femmes qui ne se référencent pas par manque d'informations ou parce qu'elles ne se sentent pas légitimes à revendiquer une expertise. Donc, mon message, c'est vraiment référencez-vous, vous êtes légitime et votre parole compte. Et si vous êtes un homme, vous pouvez aussi référencer les femmes autour de vous ou en tout cas les inviter à le faire, à leur en parler. Et ensuite, pour terminer sur les conférences, je pense qu'il est important de créer un environnement dans lequel chacun et chacune se sentent en confiance pour intervenir et que pour ça, avoir des outils comme un code de conduite, c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire hein, pour créer des environnements dans lesquels on se sent en confiance. Et il y a aussi tout un tas d'outils qui sont expérimentés par des conférences, beaucoup des conférences aux États-Unis, où par exemple, à l'entrée de la conférence, on vous donne un badge avec les pronoms par lesquels vous voulez qu'on vous nomme lors de la conférence, est-ce que vous souhaitez ou non être pris en photo, etc.
D'accord. Katia Aresti.
Je vais rajouter déjà que souvent, ce qui arrive aujourd'hui dans les confs est que dès qu'il y a un panel dans lequel il n'y a pas de femmes, ou, etc., il y a quand même un peu de tweet bashing vers la conférence en mode « mais pourquoi il n'y a pas, qu'est-ce que vous avez fait, vous avez fait de la merde, etc. » Et en fait, souvent, c'est des hommes qui organisent ou qui ont une équipe dans laquelle il y a peut-être une ou deux femmes, mais majoritairement des hommes, mais qu'ils ont fait quand même un effort de chercher. Mais il y a des femmes qui ont dit non pour y aller parce que souvent on est les mêmes qui en est sursollicités. Et pourquoi je trouve que c'est un problème, c'est pas que nous on dit non. Les problèmes est que souvent ça arrive que justement les personnes qui organisent, ils se disent « Ah, on veut inviter justement des femmes, mais qui sont ces femmes-là » Et donc, ils connaissent que très peu. Parce qu'en fait, ça suffit pas de s'intéresser à faire venir des femmes parler, juste pour cocher une case diversité. Il faut s'intéresser avant, mais bien avant, genre des mois et des mois avant que tu organises une conférence. Parce que comme ça, tu vas... Quand on va t'inviter, tu vas savoir que c'est pas parce que t'es une femme, ce qui est une horreur quand tu te fais inviter juste en te disant c'est juste parce que t'es une femme. Parce que voilà, dès que t'es visible, t'es quand même un peu sursollicité. Et t'as quand même cette impression-là. Donc c'est un truc qui revient souvent quand on discute, c'est Duchesse France. C'est un truc que tu te dis, est-ce qu'on m'invite parce que je suis légitime ou parce que juste je suis une femme, que je vais cocher une case diversité. Mais quand on t'invite et on connaît ton travail et on t'invite parce qu'on te veut, on a beaucoup plus tendance à dire oui et à pas sentir cette syndrome d'imposteur pour y aller et oser se lancer. Donc oui, le conseil fondamental que moi je donne aux gens, déjà comme elle a dit Caroline. Ouais, et d'avoir une équipe mixte, c'est très très bien parce que souvent les femmes s'intéressent à d'autres femmes aussi, mais aussi les hommes qui sont en train d'organiser, de s'intéresser à ce qu'ils font leurs collègues féminines, s'intéresser avec beaucoup d'avance parce que comme ça, c'est comme ça que ça se crée quand même cette communauté, ça s'agrandisse et les femmes ont vraiment envie d'aller parler dans leurs conférences. Et voilà. Tu vas pas avoir cette impression de oui, on m'invite parce qu'ils veulent cocher une case diversité et pas avoir un Twitter bashing derrière.
Mais d'ailleurs, ce que je trouve bien, après je donne la parole à Catherine Dufour, notamment sur Duchesse France ou d'autres sites comme ça, c'est qu'il y a votre expertise qui est mise en avant, notamment la tienne sur ton développement. Alors moi, initialement, en fait, je souhaitais, je connais quelqu'un dans le monde du logiciel depuis longtemps, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais c'est Agnès Crépet que tu connais, mais qui est maintenant à Amsterdam chez Fairphone. Et donc en cherchant un petit peu les profils techniques, j'ai vu voilà qu'il y avait ce qui était mis en avant avant tout, c'est vos compétences techniques. Et nous on cherchait évidemment quelqu'un qui avait une expérience technique et aussi une longue expérience dans le développement logiciel, ce qui est pas forcément évident, comme tu le disais au début. Les gens qui ont 15 ans d'expérience de logiciel, c'est pas forcément évident. Vous voulez sur cette émission vraiment quelqu'un qui fait du développement et pas quelqu'un qui est devenu chef de projet. Donc ça, c'est ce que je trouve bien sur ces sites-là, c'est mise en avant la compétence technique. Mais comme tu le dis effectivement, il faut pas s'y intéresser au dernier moment et ça nécessite un travail. Et je pense, alors je vous poserai peut-être la question, ça ne doit pas reposer dans les comités de programme que sur les femmes. Ça doit être la responsabilité du comité de programme,
oui,
globalement, d'avoir cette démarche-là, qui certes... j'ai une question qui me vient à l'esprit, quand tu parlais des hommes, et je te laisse réagir, une question comme ça, vous pourrez y répondre. Est-ce que c'est un truc qui est dur à combattre? C'est peut-être l'habitude des hommes, des réseaux, d'être entre eux. Est-ce que vous l'avez vécu, ça, par exemple, quand vous participez à des comités de programme ou des événements, cette habitude que les hommes ont d'être entre eux?
Justement, je pense que c'est quelque chose que moi, comme femme, je vais avoir encore plus tendance à aller m'y intéresser à des femmes, mais je m'intéresse aux hommes aussi parce que c'est un milieu que j'ai énormément de collègues masculins. Je suis tellement habituée à... J'ai beaucoup d'amis hommes dans l'informatique. Mais du coup, je veux avoir cet intérêt-là. Donc, je comprends que les hommes aient par défaut un intérêt sur d'autres hommes comme ça, comme tu dis. Mais il faut qu'on essaye tous de briser ça. Des deux côtés, en fait. Et que c'est ça qui va aider à s'ouvrir à des choses que, justement, peut-être au début, tu vas pas forcément t'intéresser à ce qu'ils font d'autres gens. En plus, pas que par rapport homme-femme, mais c'est aussi par rapport techniquement. Si tu fais beaucoup de trucs des back-end, te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, le back-end... Désolé. Si tu fais beaucoup des Java, peut-être tu devrais aussi t'intéresser à ce qui se passe en JavaScript.
Voilà. Ce sont deux langages de programmation qui sont pas exactement pareils.
Voilà, il faut une ouverture dans tous les aspects. Ça aide à justement à aller sur un truc beaucoup plus divers dans tous les sens, en fait.
D'accord. Catherine Dufour, je vous laisse réagir là-dessus. Puis j'étends la question au monde professionnel sur le recrutement. Comment aujourd'hui dans le recrutement de l'informatique on peut encourager à avoir plus de femmes qui candidatent à des postes et qui sont recrutées après? Catherine Dufour.
Oui, moi je me rappelle de mes débuts en tant qu'auteur, autrice de science-fiction, des autrices de science-fiction en France. À l'époque, je vous parle de ça parce que moi je suis la Kakoshim de l'émission, hein. J'ai 53 ans, donc il y a une vingtaine d'années, les autrices de science-fiction, on était trois, quoi. Et ben j'y suis allée, et moi j'étais timide et j'aimais pas parler ni sur des estrades ni dans le poste, et j'y suis allée parce que sinon il y avait pas de femmes, il y avait personne, et il faut y aller, et après le micro vous l'arrachez des mains des hommes, vous leur tapez sur la tête avec, et vous prenez la parole, vous n'êtes pas aimable et souriante parce que c'est ce qu'on attend de vous, et vous parlez et vous râlez et vous protestez, il y a que comme ça qu'on y arrivera. Peut-être que dans trois générations le sexisme ne sera plus qu'un mauvais souvenir, mais pour le moment, le peu de femmes qui accèdent à, justement, un micro, doit absolument y aller pour défendre les autres. Et vous ressentirez de toute façon le syndrome de l'imposteur, parce qu'on l'a toutes. De toute façon, les bons ont le syndrome de l'imposteur, hein, mâle comme femelle. Alors vous l'attrapez, vous faites comme Virginia Woolf, vous lui tordez le cou, après vous le mettez sur votre chaise et puis vous asseyez dessus, des deux fesses. Voilà, parce que les hommes ne l'ont pas. Moi, je suis allée à des tas de conférences avec des hommes. Alors, ils parlent bien, ils ont un bel organe, ça déroule, et ils me passent jamais le micro. Tout ça, c'est une question de pouvoir. Finalement, tout ça, c'est une question d'argent, c'est une question de pognon. Il y a un gâteau. Chacun en veut la plus grosse part. Il est évident que c'est les hommes qui ont la main dessus. Et s'ils ouvrent la porte et qu'ils laissent rentrer 50% de la population, et je vous parle même pas de la population non blanche, il va y avoir beaucoup plus de monde sur le gâteau. Donc, il faut juste pas attendre qu'on vous tende le micro, il faut le prendre et s'en servir pour taper sur la tête des autres. C'est peut-être pas très gracieux, mais c'est absolument indispensable.
Alors, avant de donner la parole à Caroline Corbal, si vous appréciez la prise de parole de Catherine, je vous encourage à lire son livre Ada Loveless, Ada ou la beauté des nombres. Notamment, vous allez découvrir plein de choses sur Ada, mais en plus, il y a de la truculence dans le texte. Et je précise qu'on va enregistrer une interview de Catherine Dufour sur son livre et qui sera diffusé alors normalement le 19 novembre 2019, donc dans 15 jours. Catherine, est-ce que tu veux réagir là-dessus? Et puis, par rapport à mes questions que j'ai étendues sur la partie recrutement, est-ce qu'il y a des choses spécifiques par rapport au recrutement dans les sociétés d'informatique? Et puis la question, oui, que j'ai oubliée de le début et à laquelle on n'a pas répondu, c'est est-ce qu'il y a une spécificité, bonne ou mauvaise, dans la partie logiciel libre par rapport à l'informatique en général? Ou est-ce qu'il n'y a aucune spécificité? Caroline Corbal.
Alors, ça fait beaucoup de questions.
Ça fait beaucoup de questions.
Déjà, je suis hyper d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je rajouterais peut-être aussi sur le côté les hommes sont beaucoup entre eux. C'est quelque chose que j'ai énormément vu et ressenti. Et c'est là où je pense aussi que la solidarité féminine doit vraiment jouer, parce que j'ai aussi vécu des cas où ce n'était pas le cas et j'ai reçu des refus de femmes à m'aider, à me tendre une main, notamment parce qu'elles avaient sûrement accédé à des situations de pouvoir aussi. Et c'est peut-être des mécanismes qui se répètent, je sais pas, mais j'ai trouvé ça vraiment dur et je pense vraiment que la solidarité féminine doit être au cœur de notre action et on doit vraiment créer des réseaux d'entraide et de soutien, nous aussi. Et sur la partie recrutement, je pense qu'il faut que les recruteurs pensent à adapter impérativement leur processus de recrutement, c'est-à-dire rédiger les offres de manière plus inclusive. Il faut arriver à faire comprendre aux chercheuses d'emploi qu'elles sont ciblées par ces offres, les partager sur les bons réseaux aussi. Aujourd'hui, il y a des dizaines de réseaux qui sont dédiés aux femmes dans le numérique et il faut envoyer ces offres sur ces réseaux-là. Et puis ensuite, il ne suffit pas de recruter des femmes dans vos organisations, il faut aussi les accueillir dans de bonnes conditions. Et ça implique nécessairement d'investir du temps humain, des moyens, donc c'est forcément un budget et il faut vraiment se donner les moyens pour arriver à progresser sur ces sujets. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pour les événements, c'est exactement la même chose, il faut arriver à créer des environnements qui sont inclusifs, dans lesquels chacun et chacune se sent en confiance pour travailler. Et ça relance Fred exactement ce que tu disais. Je pense que ça doit absolument pas reposer sur une seule personne, qui est trop souvent une femme. Il faut vraiment qu'on accepte que la charge mentale de la diversité soit partagée par tous en interne. Et donc ça, c'est des principes qu'on peut très bien, dans une organisation, élaborer collectivement, par exemple lors de sessions dédiées, et en fait ensuite les formaliser dans un document commun qui peut prendre la forme d'une charte, d'un code de conduite ou autre, hein, peu importe la forme qu'il va prendre à la fin.
D'accord. Petite question avant d'aborder le sujet suivant sur le rôle de l'éducation, de l'école, des parents. Pour que les hommes évitent de se faire taper dessus avec un micro par Catherine, au-delà de d'arrêter de faire des blagues sexistes au travail ou même en société, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Des conseils pratiques ou simplement le conseil oui. principal que vous voudriez leur donner? Caroline.
Moi, c'est un travail que j'avais fait avec mes collègues, notamment de mon ancienne entreprise. Et l'idée, c'était vraiment d'être un bon allié. Et pour ça, un peu les points qu'on avait élaborés, c'était déjà de se dire que quand on a une discussion collective avec des hommes et des femmes autour de la même table, il faut écouter jusqu'au bout chaque prise de parole, accepter de ne pas prendre toute la place et respecter le leadership des femmes. Je sais que parfois, c'est difficile, mais vraiment, il faut respecter le leadership des femmes. Et s'il vous plaît, ne pas rire aux blagues et aux remarques sexistes par convention. Ça, c'est quelque chose qui arrive hyper souvent. Il y a une blague qui est adressée à l'auditoire. Souvent, c'est des blagues qui sont pas du tout drôles en plus. Et par convention, par habitude, on rit tous. Ça, vraiment, c'est un réflexe qu'il faut qu'on arrive à déconstruire parce que ça fait beaucoup plus de mal que ce qu'on l'imagine.
D'accord. Sur cette partie-là, est-ce que vous voulez compléter Katia ou Catherine, avant qu'on passe au sujet suivant? Katia, Aristide.
Bah, dans les conférences ou dans le travail, pas assumer les rôles d'une femme par ses apparences. Mais comme je dirais pareil, genre qu'on n'assume pas que quelqu'un n'est pas assez technique ou que c'est pas assez qui va prendre un rôle ou un autre, en fait, parce que tu as l'impression qu'on te prend pas au sérieux. Donc d'assumer que la personne qui est en face de toi est aussi expérimentée que toi, qui sait autant que toi, et que peut-être et s'il est pas technique, peut-être elle va te le dire elle-même, mais pas assume pas dans une conférence technique avec 3000 développeurs que la femme que tu croises forcément elle fait du marketing.
Alors justement, ça me fait penser à une question, et après je passe la parole à Catherine. Par rapport au logiciel libre, est-ce que...
Ce qui est très bien, faire du marketing. Hein,
oui, c'est très bien.
S'il vous plaît. Hein,
je crois me souvenir...
C'est très bien, mais...
Je crois me souvenir qu'il y avait une statistique qui était sortie sur une plateforme de développement logiciel, peu importe le nom, qui listait le pourcentage d'acceptation de code venant d'un pseudo de genre masculin ou de genre féminin, et que quand c'était un genre féminin, il y avait moins de chances que le code soit accepté rapidement. Est-ce que je me trompe ou est-ce que... ou est-ce que c'est une réalité?
De mon expérience, j'ai une équipe remote. De remote, on est distribué dans tout le monde. Et ils sont tous des garçons, sauf moi. Et je ne me sens pas différente aux autres. Mon équipe est super... Et super, en fait. Je me sens accueillie, soutenue. Quand il faut vraiment dire c'est pas bien, ils le disent à tout le monde. Bref, ça, c'est super. Mais je connais justement une développeuse qui était une grosse contributrice d'un gros projet open source appelé Docker. Elle avait deux comptes différents, dont un pour pouvoir envoyer des trucs sans que ce soit pas elle. D'accord. Et ouais, elle disait que ça passait plus simplement.
D'accord.
Justement.
Ok.
Après, ouais, ça dépend de la communauté, j'imagine, ça dépend du projet.
Et je crois me souvenir qu'il y a une statistique qui a été faite sur GitHub, qui est une plateforme de développement, mais on vérifiera et on mettra les liens si besoin. Mais peut-être que je me trompe, mais bon, l'intuition doit
non,
pas
non,
être...
Non, mais ouais, t'as tout à fait raison. C'est une étude qui était sortie en 2016 sur GitHub qui s'appelle Gender Bias in Open Source.
Alors, les biais de genre dans le logiciel libre. Voilà.
Exactement.
D'accord, on mettra les références sur le site de la radio et de l'April. Et donc, on va maintenant... Catherine Dufour.
Oui, alors si on veut en savoir un peu plus de façon chiffrée sur ce problème-là, cette problématique-là dans le monde du travail, il faut lire TGS, Travail Genre Société. Donc c'est une revue qui est menée depuis, je sais pas, 20-30 ans par madame, en tout cas fondée par madame Marwani. Donc ils vont tout simplement poser des questions aux jeunes, que veux-tu faire plus tard? Et c'est toujours la même chose. Quand une jeune fille dit « moi je veux être maître chien », on lui dit « mais non, c'est mieux coiffeuse ». Quand un homme veut être coiffeur, il arrive dans une promo de 100, enfin elles sont 99, il est tout seul. Il est accueilli, bien sûr, comme le Saint-Sacrement. Quand une femme décide de faire génie mécanique, sur une promo de 100, elles sont 2. Et les autres étudiants n'ont de cesse de dessiner des bites sur leur boîte à outils, de faire des bruits de bouche et de faire, bien sûr, des blagues sexistes qui vous ravalent à votre foufoune. Jusqu'à ce que, en général, sur les deux, il y en a au moins une qui craque et qui va faire coiffeuse. Donc malheureusement, ça change pas tellement. Et il est évident qu'on rêve de pouvoir compter sur une solidarité féminine. Alors, les femmes, c'est comme n'importe quel peuple opprimé. Il y en a quand même un sacré nombre qui ont intériorisé leur infériorité et qui se feront couper en deux plutôt que de montrer la moindre solidarité. Et ça, c'est un vrai problème. Mais alors, le problème de la misogynie féminine, permettez-moi de vous dire que c'est encore une terre incognita à défricher. Et je vais laisser des femmes plus jeunes que moi se débrouiller avec. J'en suis ravie.
Vous venez de parler des enfants quand ils ont des ambitions de métier, quel qu'il soit. Alors justement, c'est le dernier sujet, enfin l'avant-dernier, avant les petits conseils de lecture et de podcast, sur le rôle, même si on a déjà un peu parlé tout à l'heure, de l'éducation, des parents, de l'école. Donc Katia a raconté son expérience avec son papa. Et tout à l'heure, Catherine Dufour a expliqué le rôle central du père dans l'autorisation de faire telle ou telle chose. Donc, est-ce que vous avez est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce point-là? Est-ce que vous avez des conseils à donner, par exemple, aux parents ou aux amis des parents ou tout simplement au système éducatif français? Caroline?
Moi, c'est peut-être, oui, juste sur le système éducatif, que l'école apprenne davantage à connaître les nouveaux métiers qui utilisent le numérique, ou alors même tous les métiers maintenant vont utiliser du numérique s'ils ne le font pas déjà. Et ça, je pense qu'il faut que les conseillers d'éducation et les profs qui accompagnent les élèves dans leur choix puissent mieux parler de ces métiers-là, les rendre, enfin davantage les valoriser, les rendre plus attractifs pour donner plus envie et en parler évidemment de la même manière aux filles et aux garçons. Et ensuite, je pense qu'il y a un rôle fort des écoles de code. Les écoles de code doivent aussi apprendre à lutter contre les situations de sexisme. Je pense notamment aux polémiques qu'il y avait eu avec l'école 42 et qui un petit peu froid dans le dos quand on lisait des témoignages de jeunes filles qui étaient rentrées brillamment dans cette école et qui en étaient sorties après quelques mois tellement elles expérimentaient au quotidien des situations de sexisme, de blagues, de réflexions sur leur tenue, etc.
Alors ça fait penser en termes d'école, et après je vais passer la parole à Katia et Catherine, qu'il y a une école qui vient d'ouvrir, ou je crois qu'elle va ouvrir, qui s'appelle Ada School, donc principalement à Paris je crois, mais sauf erreur de ma part, mais on vérifiera, qui est une école qui est ouverte à toute personne, mais qui affiche très clairement justement un accueil bienveillant, inclusif, etc. Et le nom d'Ada évidemment est choisi en référence à Ada Lovelace, dont on parlera donc sans doute le 19 novembre avec Catherine Dufour. Donc sur cette partie éducation, parents, enfants, amis des parents aussi, parce qu'ils ont des rôles par rapport aux enfants. Katia Resti, tu veux ajouter quelque chose ?
Moi, je sais pas, mais je constate que les enfants tout petits, ils jouent vraiment le rôle d'imitation. Mais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai deux filles. Quand ma fille, ils ont 2 ans d'écart. Quand ma fille a vu, ma fille aînée a vu qu'on avait un petit bébé à la maison, elle a commencé à jouer, à s'occuper des bébés. Et un jour aussi, elle a monté un petit truc en Lego à la con. Quand elle avait 3 ans et demi, là. Et d'un coup, elle s'est mise comme à faire tic, 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 comme ça. Et du coup, le papa l'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Dit, je fais comme maman dans l'ordinateur.
Tic, ah oui, tic, alors, tic, je tic. Précise que comme on est à la radio, en fait, Katia est en train de mimer quelqu'un qui tape sur un clavier.
Ouais,
voilà.
Pardon, désolé. Désolé, je me croyais à la télé d'un coup.
bientôt.
Non, mais du coup, ce que je vais dire est qu'il y a un rôle d'imitation très, très fort qui se fait depuis que les enfants, ils imitent. Tout. Et justement, il faut éviter de tomber dans des cases en tant que parent. Après, il y a nous, et il y a l'école, il y a les autres parents, il y a tout le monde. Donc les enfants, je vais dire, moi, je n'achetais pas de fringues roses à ma fille, mais là, c'est juste pas possible. En fait, elle le veut. Et malgré moi. Et du coup, je me dis, je ne sais pas comment... qu'est-ce que je veux faire? Je lui dis non, je lui achète aussi d'être rose. Je vais pas, j'ai choisi mes batailles. Donc, à un moment donné, mais je veux dire, il y a pas que nous, mais oui, essayer de montrer des différents exemples, de donner des choix surtout, donner des choix et pas s'enfermer sur les box de marketing. Ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. Essayer de surpasser tout ça.
OK. Catherine Dufour, vous voulez réagir?
Oui, en général, on essaye de donner l'éducation qu'on juge bonne à ses enfants et la société vient tout vous pourrir derrière, notamment en gavant les petites filles de rose. Alors, il y a une très jolie petite histoire, c'est Madame de Maintenon, c'était l'épouse de Louis XIV. Bon. Elle ouvre une école pour filles, justement, Saint-Cyr. Et elle avait été une petite jeune fille plutôt mignonne, qui s'achetait des petites dentelles, et puis elle se mettait devant son miroir, et elle se faisait des mines et des duck face, bon, comme toutes les gamines. Et dans son école, il y a deux bonnes sœurs qui ont chopé des gamines en train de se mettre, je sais pas, du rouge à lèvres, quelque chose comme ça. Donc elles sont allées voir Madame de Maintenon en disant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les pend sur la place publique? Est-ce qu'on leur donne 200 ave, 200 pater à réciter? Et Madame de Maintenon a répondu: pour mourir à ces délicatesses, il faut y avoir vécu, laisser les faire. C'est-à-dire que globalement, les petites filles, il faut les laisser se gaver de roses jusqu'à ce qu'elles n'en puissent plus. Elles lâcheront elles-mêmes la chose en temps voulu. Parce qu'on peut pas lutter contre la société complètement, on peut aiguiller, et puis il faut quand même pas trop s'inquiéter, un gamin qui est pas trop contrarié sur une de ses lubies finira fatalement par passer par autre chose, et s'il est intelligent, par passer à quelque chose de bien.
D'accord. Alors il nous reste 2-3 minutes, donc ça va être la dernière question. Quel conseil ça peut être de lecture, de podcast, de vidéo ou autre, vous conseilleriez, que ce soit aux femmes, aux hommes, aux parents, aux enfants? On va commencer par Caroline Corbal.
Oui, alors moi j'avais pensé à trois choses. Alors c'est pas lié directement au numérique, mais c'est des supports qui traitent, des œuvres qui traitent de sujets féministes et qui me semblent très inspirants et éclairants pour comprendre en fait les mécanismes qui sous-tendent les dynamiques sexistes qui sont à l'œuvre dans le numérique. En podcast, j'avais pensé au podcast Les couilles sur la table, qui est animé et pensé par Victoire Tuaillon, qui sort bientôt en livre et qui est hyper intéressant. Et aussi un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. En BD, toutes les BD de Liv Strömquist, qui est une auteure suédoise, qui est hyper drôle en plus. Et je pense notamment à L'origine du monde ou à I'm Every Woman. Donc c'est drôle, ça apprend plein de trucs sur le féminisme et ça donne des grilles de lecture vraiment assez intéressantes, je trouve. Et puis L'excellent sorcière, La puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, qui est là pour le coup un peu plus dense, mais qui est tout aussi intéressant.
Alors tu m'enverras les références précises que je les rajoute sur le site, et je confirme que le podcast Les couilles sur la table de Virtuel Taillon est excellent. Catherine Dufour, alors au-delà de vos livres, donc j'encourage vraiment à lire Ada ou La beauté des nombres, je l'ai fini avant-hier, et l'autre que je n'ai pas lu mais que je vais commander, qui est Le guide des métiers pour les petites filles, est-ce que vous avez des conseils de lecture, de podcast ou autre?
C'est d'ailleurs, j'aurais un peu les mêmes. Alors, Mona Chollet, vous pouvez tout faire, tout Mona Chollet, et puis après, vous passerez à Naomi Klein, et vous commencez par Caliban et la sorcière. Après, on se recose.
Alors, Mona Chollet, je crois que c'est l'an dernier, ou il y a 2 ans, a publié un livre Sorcière,
Alors, c'est Sorcière. Avant, elle avait fait un livre, je ne me souviens plus du titre, c'est sur la façon d'habiter chez soi. Et avant, elle avait fait Beauté fatale. Non, mais tout Mona Chollet, effectivement, c'est incontournable. Et puis, si vous préférez la BD, vous pouvez passer par Les culottés de Pénélope Bagieu, c'est pas mal.
D'accord. Bon, pareil, vous m'enverrez les références que je n'ai pas. En tout cas, les personnes qui écoutent, évidemment, l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer des références. Et puis, il y a d'autres sites ressources. On va pas citer, mais par exemple, Open Source Diversity. Alors, je crois que c'est opensourcediversity.org, sur lequel il y a pas mal de références. Alors, par contre, on n'a pas cité les sites web. Donc, Duchesse France et duchesse-france.org. C'est bien ça?
Ouais.
Alors, sans E à Duchesse. Et vous verrez sur le site pourquoi ça s'appelle Duchesse. Hein. Je vous laisse découvrir. C'est un lien avec la mascotte Java. Et Open Heroine, c'est quoi le site principal, Caroline?
C'est openheroine.org.
D'accord.
Et pour le chapitre français, vous pouvez plutôt nous retrouver sur le site de codefort.fr.
Ok. Ben en tout cas, je vous remercie. C'était passionnant et c'était qu'une première émission sur le sujet parce qu'il y a vraiment plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Donc nous étions avec Caroline Corbal, donc de Codefort France et d'Open Heroine. Katia Aresti, donc développeuse chez Red Hat et Duchesse France, et Catherine Dufour, ingénieure en informatique, qui a écrit de la fantasy et qui a publié récemment donc Ada ou la beauté des nombres chez Fayard et qu'on retrouvera donc le 19 novembre sur notre studio. Merci à vous et passez une agréable fin de journée.
Merci.
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 On va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Balloon Girl par Hungry Lucy. On se retrouve juste après et passez une belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune
93.1.
For you.
venons d'écouter Balloon Girl par Hungry Lucy, disponible sous licence libre Creative Commons by ESA, c'est-à-dire partage dans les mêmes conditions, excusez-moi. Et vous retrouverez les références évidemment sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons passer maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec une interview de présentation du Pacte pour la Transition, donc avec Julie Bideux, chargée d'accompagnement au Pacte pour la Transition. Le Pacte, c'est pacte-transition.org. Bonjour Julie.
Bonjour.
Est-ce que tu nous entends bien ?
Je vous entends très bien.
Super. Alors, première question toute simple, hein. Qu'est-ce que le Pacte pour la Transition ?
Alors, le Pacte, c'est un projet qui est porté par une soixantaine d'organisations, dont la prime, qui vise à favoriser la participation et la mobilisation citoyenne au niveau local sur la transition écologique et démocratique, et notamment dans le contexte des prochaines élections municipales. Du coup, en fait, concrètement, le pacte, c'est 32 mesures et des fiches techniques qui les accompagnent pour mettre en place la transition dans les communes. Et donc, ces mesures sont à destination à la fois des élus et des candidats, mais surtout des associations et de collectifs citoyens qui ont souhaité interpeller ces candidats sur les questions de transition dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et nous, on accompagne également ces collectifs dans cette démarche.
D'accord, on va rappeler que les élections municipales, donc c'est les 15 et 22 mars 2020, mais que la mobilisation commence, d'ailleurs les candidats et candidates commencent à se déclarer en fonction des villes. Donc le pacte, comme tu l'as dit, est porté donc par des collectifs avec pas mal d'organisations, et initialement par le collectif pour une transition citoyenne. Alors tu as cité l'April, effectivement on fait partie des partenaires. Est-ce que tu peux nous citer quelques autres partenaires un petit peu entre guillemets emblématiques, la diversité de ce collectif ?
Alors pour faire un petit tour, donc on a des partenaires qui travaillent sur les questions environnementales et climatiques, Alternativa, la FNE, la FNH, Greenpeace, Zero Waste France, des partenaires qui travaillent sur les questions plutôt sociales comme Emmaüs ou Secours Catholique, et enfin certains qui travaillent plus sur la démocratie ouverte.
D'accord, en tout cas, tous les autres partenaires sont sur le site pacte-transition.org. Il y a aussi dans l'énergie, il y a Enercob, je crois, qui fait partie des partenaires très actifs. Donc, pour que les gens comprennent bien, donc ce pacte, c'est pas un document unique, c'est pas un document avec des engagements généraux, c'est des engagements généraux, mais aussi des mesures techniques très précises. Alors, une concerne le logiciel libre, mais je suppose qu'il y en a plein d'autres. Donc, il y a 32 mesures, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, 32 mesures qu'on a définies après tout un processus qu'on a voulu le plus participatif possible, donc qui parle d'écologie, solidarité, démocratie encore, mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable dans les bâtiments des communes, développer le foncier agricole, lutter contre l'accroissement des grandes surfaces commerciales sur le territoire, garantir l'accès à un logement abordable ou adhérer aux monnaies locales complémentaire et citoyenne du territoire.
D'accord. Alors, on va préciser, quand tu dis qu'il y a eu tout un processus d'élaboration de ces mesures, ont été discutées, élaborées avec des partenaires, et il y a aussi une consultation, je crois que c'était en début d'année 2019, mais tu me corrigeras sinon, qui a permis en fait aux personnes de voter en faveur ou contre ces mesures, et aussi de proposer des amendements. Donc, c'est un processus collaboratif.
C'est ça. En fait, on a d'abord commencé à travailler avec les organisations qui étaient déjà partantes pour le projet en fin d'année 2018. Et à partir de la quarantaine de mesures, d'idées qu'on avait, on a fait une consultation qui a duré à peu près un mois c'était en février 2019, où on encourageait les gens qui souhaitaient participer. Il y en a eu environ un millier à voter pour les mesures proposées, les amender et en proposer de nouvelles. À partir de ça, on a réuni un comité d'experts. Donc, par experts, on avait des chercheurs, des élus, des représentants d'associations, mais aussi des citoyens. Et avec ce comité d'experts, on a revu des contributions pour faire une liste de 32 mesures. Parce que ces mesures, comme on a voulu les rendre applicables pour toutes les communes françaises, on les accompagne de fiches techniques pour les rendre plus précises, les adapter aux contextes locaux et expliquer comment est-ce que c'est possible de les mettre en œuvre sur les différents territoires. Et ça a été une nouvelle phase de travail avec les organisations pour rétablir ces fiches de 3 à 4 pages à chaque fois et qui sont aussi disponibles sur notre site.
Oui, c'est important de préciser que dans ces fiches, et je vais prendre l'exemple de la fiche que je connais le mieux, c'est celle sur le logiciel libre, il y a des niveaux possibles d'engagement de, donc des personnes qui seront élues dans les municipalités. Donc par exemple, sur le logiciel libre, l'engagement 1, ça peut être simplement de faire des initiations au logiciel libre dans les espaces publics numériques. Et l'engagement, le dernier, ça peut être de migrer l'ensemble de son système informatique vers le logiciel libre. Donc voilà, il y a différentes étapes qui permettent de s'engager plus ou moins fortement et puis qui dépendent aussi évidemment de la temporalité parce que les élections municipales, alors de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est 6 ans. En 6 ans, on ne peut pas tout faire. Et j'ai une question qui me vient. Quand on est candidat ou candidate à l'élection municipale, est-ce qu'il faut s'engager sur les 32 mesures ou est-ce qu'il y a un nombre minimal de mesures sur lesquelles il faut s'engager? Ça se passe concrètement quand on est candidat ou candidate?
Alors, en fait, d'abord, ce que je disais, c'est que les mesures, toutes les fiches techniques sont disponibles, accessibles à tous sur notre site. Donc, si un candidat passe, si un candidat nous entend, il peut complètement aller sur le site et s'en inspirer pour faire son programme. Après, nous, ce qu'on propose comme un accompagnement et comme engagement entre personnes, citoyens lambda, mobilisés sur le territoire et candidats, c'est de signer un pacte local, donc où le candidat s'engage à mettre en place un minimum de 10 mesures. Mais après, ça, c'est défini par le nombre de mesures, quelles mesures et les niveaux d'engagement sont définis par les collectifs locaux qui connaissent le mieux leur territoire.
Alors d'accord, bah, donc justement c'est intéressant. Comment se passe donc la coopération et le travail en commun entre donc le collectif qui porte au niveau national ce pacte et ces 32 mesures et les structures locales qui vont porter les mesures et aller voir les candidats et candidates dans les mois qui viennent?
Alors du coup, sur le site internet du pacte pour la transition, on peut voir une carte avec toutes les personnes qui sont déjà déclarées intéressées et prêtes à se mobiliser sur le pacte pour la transition. Il y a près des personnes qui se déclarent intéressées sur environ 1300 communes, mais pour l'instant, on devrait avoir une grosse cinquantaine de collectifs actifs. Ces collectifs, on leur propose des façons de faire, des manières de s'engager et d'interpeller les candidats, et on essaie de suivre comment ils avancent. Et on s'est rendu compte qu'il y a à la fois des néo-militants complets qui découvrent et qui s'engagent dans la transition par ce biais, mais aussi des associations, notamment des associations locales, des partenaires du pacte qui se saisissent du projet pour avoir un fil conducteur pour les prochains mois et interpeller les élus.
D'accord. Alors d'ailleurs, je vois que quand je vais sur le site pacte-transition.org, le premier champ à remplir, c'est le code postal. Donc, que se passe-t-il dans ma commune? Et ensuite, il y a trois points. Donc, le pacte pour la transition propose 32 mesures concrètes pour une transition locale. Les habitantes définissent les mesures prioritaires pour leur commune. Donc, ça, c'est comme tu l'as expliqué, c'est en local que ça va définir quelles mesures sont prioritaires pour la commune en question. Et ensuite, les candidats et candidates aux municipales de 2020 s'engagent à les mettre en œuvre une fois élus en mars 2020. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur peut-être sur l'agenda à venir ou sur le pacte?
Peut-être pour préciser justement sur ce dernier point, les candidats s'engagent à les mettre en œuvre une fois élus, c'est que le pacte, ce n'est pas seulement un projet, donc jusqu'en mars 2020, on compte bien continuer et continuer à accompagner les collectifs qui sont déjà là et des nouvelles personnes qui souhaiteraient s'engager pour continuer à interpeller cette fois-ci les élus et suivre la mise en place des mesures du pacte dans les communes et faire en sorte qu'on avance progressivement et toujours rehausser les ambitions.
Oui, parce qu'en plus, il est important que les candidats et candidates s'engagent, mais il est aussi important de vérifier que les promesses sont tenues derrière. Bon, on ne va pas faire les célèbres citations sur les promesses. Bon, en tout cas, on encourage toutes les personnes à aller sur le pacte-transition.org pour découvrir ces mesures, se les approprier dans le cadre des élections donc municipales qui, je le rappelle, auront lieu du 15 au 22 mars 2020. Et si vous avez besoin de contacter le collectif, tous les moyens de contact sont sur le site. Eh bien, écoute, Julie, je te remercie et puis à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Belle journée. On va passer aux annonces finales. Alors, les annonces finales. D'abord, la réponse au quiz. Alors, tout à l'heure, Catherine Dufour a répondu à une des questions du quiz qui portait sur le nom de la personne qui a écrit le premier programme informatique, c'est Ada Lovelace. Et je le rappelle que nous aurons Catherine Dufour qui sera interviewée par Magali Garnero, administratrice de l'April et libraire dans le 11e arrondissement. La diffusion aura lieu le 19 novembre 2019, mais ce ne sera pas en direct. L'émission va être enregistrée juste après pour des questions de planning. Et donc, la réponse à l'autre question. Je vous disais que l'émission du 29 octobre 2019 était la 42e émission de Libre à vous, 42 étant un nombre fétiche dans la culture geek, la culture de l'informatique, de l'imaginaire. Nous avions fait quelques clins d'œil et références à une œuvre. Laquelle était-ce? C'était la question. La réponse est le Guide du Voyageur Galactique de Douglas Adams. Et sur le site de l'April, j'ai mis toutes les références parce que la semaine dernière, on m'a dit « Mais pourquoi à la fin tu as dit encore merci pour le poisson, je ne comprends pas ?» Bah, c'est une des références. Donc je vous ai mis les réponses sur le site de l'April. Donc dans l'agenda, déjà il y a un apéro April, on a parlé des rencontres, l'importance des rencontres, donc il y a un apéro April au local de l'April à Paris, vendredi 8 novembre à partir de 19h. Il y a une soirée de contribution au Libre, donc jeudi soir 7 novembre à la FPH dans le 11e arrondissement, donc 38 rue Saint-Sabin, donc n'hésitez pas à aller. Il y a évidemment beaucoup d'autres événements sur le site agendadulibre.org. Dans les événements aussi à venir, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, alors c'est le 16 et 17 novembre, il y a l'Ubuntu Party. Alors je vous parle de ça parce que, outre le fait de découvrir Ubuntu ou d'autres distributions libres, il y a des conférences et il y a des ateliers. Donc, notamment, ma collègue Isabella Vanni co-animera un atelier sur un jeu qui s'appelle le jeu du GNU, qui est un jeu inspiré du jeu de loi, sauf que c'est un jeu coopératif. Donc allez à cet atelier qui sera co-animé par Isabella et Monique Mohican, qui est un bénévole de l'April. Et moi-même, je donnerai une conférence, alors peut-être le dimanche 17 novembre, c'est pas encore fixé, sur l'émission de radio, l'occasion de vous expliquer pourquoi on fait cette émission, et l'occasion aussi peut-être de vous faire parler de vos propres usages du logiciel libre. Donc surveillez le programme de l'Ubuntu Party, qui a lieu donc les 16 et 17 novembre 2019 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Petit message interne, mais c'est important, parce qu'il y a des gens dans l'informatique dont on entend peu parler, sauf quand ça se passe mal, ce sont les personnes qui s'occupent de l'administration système, c'est-à-dire de mettre à jour les serveurs, etc. Et l'équipe d'administration système de l'April, qui est composée uniquement de personnes bénévoles, a œuvré tout ce week-end pour mettre à jour les serveurs dans la nouvelle version de notre distribution préférée libre, qui est Debian. Le système d'information de l'April a été migré. Le système d'information de notre Chapril, donc chapril.org, qui permet d'utiliser des outils pour vous sortir des outils Google et compagnie, a été également migré. Bon, il reste quelques pétouilles à corriger, comme il disent. En tout cas, je les remercie grandement parce que c'est un travail dans l'ombre, mais qui est très très important. Et il y a quelques photos qui sont disponibles sur le site de l'April. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Luc, Katia Aresti, Catherine Dufour, Caroline Corbal, Julie Bideux. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Isabelle Avani. Un grand merci également à Sylvain Kutzmann et à Olivier Grieco, qui s'occupe du traitement des podcasts et de leur mise en ligne sur le site de la radio, puis sur le site de l'April. Vous retrouvez donc sur le site de l'April, april.org, toutes les références utiles. On va compléter les références avec les liens cités en cours de cette émission. Toutes vos remarques et questions sont évidemment les bienvenues, pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et de faire connaître la radio Cause Commune et l'émission de l'April. Alors, la semaine prochaine, on va parler des applications d'analyse de produits alimentaires. Certaines applications sont propriétaires, mais il existe aussi des solutions libres. Et donc, notre sujet principal portera sur Open Food Facts, qui est un projet collaboratif en ligne et mobile, dont le but est de constituer une base de données libre et ouverte sur les produits alimentaires commercialisés dans le monde entier. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 12 novembre 2019. Et d'ici là, portez-vous bien.